Bonsoir à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre et joyeuses fêtes. Ce soir, la gratuité, une révolution pour trois fois rien. C'est un peu l'oncle ou le beau-frère qu'on préférerait ne pas avoir à table lors du repas de Noël. Celui qui, au moment d'ouvrir les cadeaux, serait capable de citer Walter Benjamin au pied du sapin. Du genre, c'est une erreur de croire que le jeu de l'enfant est déterminé par le contenu représentationnel de son jouet. Mais encore, si l'enfant veut tirer quelque chose, il devient cheval. S'il veut jouer avec du sable, il devient boulanger. Bref, vous et vos cadeaux, vous êtes la société de consommation incarnée, le capitalisme qui transforme le monde en marchandises. Heureusement, cet oncle Bougon est aussi un jouisseur, dit-il. Et pour nous en convaincre, Paul Ariès, c'est son nom, politologue et essayiste, prononce dans son dernier livre le mot magique « gratuit ». La gratuité comme alternative au capitalisme, comme machine à satisfaire des droits, non pas pour raser gratis et se servir jusqu'à plus soif, d'eau, d'énergie ou de nourriture, mais pour en profiter pour dessiner un changement radical de système. À ceux qui lui reprochent de trop croire au Père Noël, Paul Ariès rappelle que l'échange marchand est assez nouveau à l'échelle de l'humanité. Alors peut-on faire la révolution pour trois fois rien ? Nous en débattons jusqu'à 19h avec nos deux invités. Bonsoir Paul Ariès.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, directeur de l'Observatoire international de la gratuité. Vous êtes l'auteur de ce livre sous forme de manifeste « Gratuité versus capitalisme » paru chez Larousse. Ce qui promet du débat, de la discussion, en tout cas avec vous Jean-Marc Daniel. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci également d'être là, professeur que vous êtes à l'École supérieure de Commerce de Paris, on dit l'ESCP Europe aujourd'hui, vous vous définissez comme un libéral classique. Alors c'est Noël, donc on peut commencer par imaginer ensemble ce que serait le monde s'il était gratuit. Tout ne le serait pas gratuit, Paul Ariès, et dans votre livre vous avez choisi à dessein quelques biens et services. L'eau, l'énergie, la santé, les transports en commun, la restauration sociale, les bibliothèques, les musées, le web, les services funéraires, les toilettes publiques. Alors prenons quelques-unes de ces hypothèses les unes après les autres et puis débattons-en. Je trouvais que l'exemple de l'eau résumait bien toute la démonstration que vous faites dans le livre. L'eau, alors c'est vrai que l'eau comme l'air nous est indispensable, on la paye depuis le 20e siècle. Mais aujourd'hui, alors qu'on parle des nappes phréatiques qui baissent, de ce qu'il faut s'attendre à des ruptures d'ici 2050, vous, aujourd'hui, vous voulez rendre à nouveau l'eau gratuite. Alors, on vous écoute sur la démonstration.
La première chose que j'ai envie de dire, c'est que la gratuité, c'est un joli mot. Et c'est même un mot féminin. L'antonyme du mot gratuité, en latin, c'est mercenaire. Et c'est vrai que personnellement, je préfère être du côté du don que du côté du vénal. Et je suis certain qu'autour de ce plateau, nous sommes tous convaincus que l'on préfère partager notre intimité avec une personne qu'on a choisie ou qui nous a choisis, plutôt que dans le cadre d'amour tarifé.
Et la gratuité.
Et ce qui est vrai dans le domaine, je dirais, sentimental, l'est aussi ou devrait l'être pour beaucoup de services publics et de biens communs. Et vous parlez avec raison de la question de l'eau. Alors j'avais eu un débat pendant presque 15 ans avec Daniel Mitterrand qui était partisane de la gratuité de l'eau vitale. Moi je préfère parler
Daniel
de gratuité...
Daniel Mitterrand parce qu'elle préside...
Parce qu'elle présidait effectivement la fondation Daniel Mitterrand qui a beaucoup milité pour la gratuité. Moi je préfère parler de gratuité de l'eau élémentaire parce que la pire des choses... ça serait d'enfermer la gratuité dans le vital et dans la survie.
Alors, vous ne dites pas, Paul Ariès, et vraiment, on va essayer de décrire ce que ça peut donner. Vous ne dites pas, chacun a droit à deux douches par jour s'il le souhaite, voire deux bains, d'arroser son jardin de nuit et jour s'il en a un, etc. Vous partez d'une base qui est celle définie par l'Organisation Mondiale de la Santé pour couvrir les besoins minimums quotidiens, 40 litres par jour.
Alors, on part finalement d'un double constat, c'est que l'échec tout d'abord du système marchand. L'eau est devenue gratuite au début du XXe siècle avec le fameux slogan « eau potable à tous les étages ».
Eau courante à tous les étages,
voilà.
Oui. Avec
c'était
des
c'était déjà effectivement, j'allais dire, la fée technologie qui venait nous expliquer qu'il fallait payer. Puis le deuxième constat, c'est qu'effectivement, nous gaspillons de plus en plus d'eau. Mais il ne s'agit sûrement pas de rendre gratuite toute l'eau. Et concernant l'ensemble des domaines, on propose un nouveau paradigme qui est la gratuité du bon usage face au renchérissement du mésusage. Ça semble compliqué, en fait, c'est
donc
très simple.
Donc pour l'eau, c'est quoi le mésusage?
C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on paye l'eau le même prix pour faire son ménage et pour remplir sa piscine privée? Et ce que l'on constate dans la centaine de villes qui expérimentent en France la gratuité de l'eau, c'est que ça ne conduit pas à un gaspillage. Au contraire, je dirais que les gens deviennent davantage responsables et on a une diminution de la consommation.
Alors, avant d'entendre Jean-Marc Daniel, un exemple simplement d'une ville qui applique ce principe-là et des rapports qui ont été faits pour mesurer la consommation des habitants. Est-ce qu'elle a explosé? Est-ce qu'au contraire, elle s'est stabilisée? Elle a diminué? Qu'est-ce qu'on a comme exemple?
On a la ville de Libourne, on a aussi, je dirais, d'autres villes qui, partout en France, ont accompagné cette gratuité avec une politique. C'est-à-dire qu'il va falloir expliquer aux gens différencier les usages. C'est-à-dire que l'eau pour faire effectivement son jardin n'est pas égale à l'eau pour prendre sa douche. Et puis très vite, il va falloir mettre en place et revoir pour cela, y compris la réglementation française, le fait que le grand scandale aujourd'hui, c'est que l'eau ne peut être utilisée qu'une seule fois. Et je crois qu'il va falloir apprendre à recycler l'eau et donc pour cela, à différencier ce qu'on appelle l'eau grise de, par exemple, des urines qui doivent être collectées à part et qui pourront servir d'engrais.
Voilà, donc à chaque fois, la gratuité est un prétexte pour vous pour repenser toute une organisation, tout un système. Jean-Marc Daniel, l'eau, punir le mésusage, ça se fait aujourd'hui, par exemple, dans certains départements, les pompiers tarifent des interventions quand on leur demande de venir débloquer une porte ou enlever un nid de guêpes.
Oui, et donc quand ils tarifent et quand on punit le mésusage, on introduit un prix. C'est-à-dire que le prix, c'est le moyen le plus naturel, effectivement, de faire des arbitrages. C'est ce qu'on apprend en première année de Sciences Éco, on apprend aux étudiants les 10 principes de Nicolas Gregory Mankiw, qui est l'économiste américain qui sert un peu de référence au niveau de l'enseignement international. Et son premier principe, c'est que le véritable enjeu en économie, c'est de définir des priorités et de réaliser des arbitrages au travers d'un prix.
Alors peut-être que le mot gratuité, peut-être que liberté d'accès vous conviendrait
oui,
davantage
que le mot gratuité. Je suis assez d'accord avec cette idée qu'effectivement, on peut essayer de différencier l'eau en fonction de son usage. Mais d'abord, elle n'est pas gratuite. C'est-à-dire que l'eau initiale, elle était gratuite parce qu'elle n'était pas potable. Et donc, l'eau, elle a un certain coût et donc il y a quelqu'un qui paie. Donc, un des problèmes, c'est de savoir est-ce que la collectivité, au travers de l'impôt, doit utiliser l'eau pour redistribuer le pouvoir d'achat? Est-ce que c'est un bon vecteur? Est-ce que c'est le bon moyen de faire de la redistribution? Puisque le deuxième élément, c'est que je pense que effectivement, essayer de faire la différence entre ce qui est l'eau de la piscine et ce qui est l'eau de la que l'on utilise pour boire, qui effectivement doit être potable, c'est à la fois un bon principe et ça devient de plus en plus techniquement possible. Néanmoins, il ne faut pas se faire d'illusions. Si on donne la gratuité de 40 litres d'eau à tout le monde, pour l'instant, c'est un titre expérimental. Ce que montre l'expérience, et les gens sont assez naturellement commerçants, c'est que les gens qui vont avoir besoin que de 30 litres vont aller voir ceux qui ont besoin de 50 litres et ils vont leur dire... Les 10 litres que tu achètes au service communal, moi je te revends mes 10 litres que j'ai eu gratuitement à un prix qui est inférieur à celui que le service communal va te facturer. Et donc, assez naturellement, dès qu'on introduit une distorsion sur la formation naturelle du prix, on voit apparaître une forme de marché noir. On est le soir de Noël, le Père Noël est confronté au marché noir, c'est-à-dire il nous apporte des cadeaux et demain, le 26 décembre, enfin,
on va aller
le 26 décembre, vous allez les trouver sur le marché, tout un tas de gens sont en train de les revendre. Et donc le prix, ça reste quand même un élément de détermination du comportement des gens et un élément de différenciation. Et donc qu'on arbitre sur un certain nombre de choses en disant ça doit être gratuit, ça suppose quand même de bien montrer et de bien voir comment le public ne va pas utiliser et contourner les intentions initiales de celui qui a mis la gratuité.
Alors Paul Ariès, comment on fait pour responsabiliser tout le monde?
C'est que la gratuité, c'est pas le produit ou le service débarrassé du coût, mais du prix. L'école publique, elle est gratuite, mais elle est financée par l'impôt. C'est-à-dire qu'il s'agit toujours d'une gratuité construite, économiquement construite, mais également culturellement construite. Et pour moi, il y a une sorte de grammaire de la gratuité qui est indispensable et qui repose sur trois règles fondamentales. La première règle, c'est que la gratuité n'a pas à être enfermée dans le seul domaine de la survie. L'eau vitale gratuite, c'est important, mais la gratuité des bacs à sable également. La deuxième règle, c'est que cette gratuité doit être mise au service d'un projet social et écologique. Cette fameuse règle de la gratuité du bon usage face au renchérissement du mésusage. Et la troisième règle, c'est qu'il ne s'agit sûrement pas de rendre gratuits les produits et les services tels qu'ils existent, mais d'utiliser la gratuité pour repenser écologiquement, socialement et je dirais démocratiquement les services publics.
Donc Paul Ariès, Jean-Marc Daniel vous rappelle que l'eau, il faut la prélever, il faut la traiter, la stocker, la distribuer, il faut l'évacuer, tout ça à un coût. Et comment on le finance si jusqu'à 40 litres l'eau est gratuite et que on va chercher chez le voisin les litres qui n'ont pas été, comme le suppose Jean-Marc Daniel, les litres qui n'ont pas été utilisés pour ne jamais finalement verser un centime.
Bah, la première façon de financer, c'est cette tarification progressive. C'est-à-dire que les plus gros consommateurs, les plus gros gaspilleurs, financent effectivement pour ce qui est le droit à l'eau. Je veux dire, ce droit à l'eau, il est recommandé par l'Organisation Mondiale de la Santé, 40 litres d'eau par jour et gratuité des abonnements. Et puis, je crois également que cette politique de la gratuité, elle va avec des économies. Quand on sait qu'aujourd'hui, entre 30 et 40% de l'eau qui circule dans les canalisations est perdue. Je dirais les grandes firmes qui font de l'argent avec l'eau s'en moquent, puisque de toute façon, c'est le consommateur qui paye.
Mais pourtant, les entreprises privées n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait des pertes.
Ah ben, ce que l'on constate, c'est que de toute façon, je dirais, ce système conduit à un gaspillage éhonté en matière d'eau. Et là aussi, je pense qu'il est important de regarder ce qui fonctionne, y compris à l'étranger. Quand on constate que systématiquement, lorsqu'on instaure cette gratuité, on va mettre ces politiques d'accompagnement, on va dissocier les différents usages de l'eau, eh bien, je dirais qu'on rentre tout simplement dans une transition écologique, mais que profitable au plus grand nombre.
Et donc, une meilleure utilisation de la ressource, écrivez-vous, le recyclage des eaux grises, la collecte des urines, etc. Jean-Marc Daniel, à l'origine du mouvement altermondialiste né en 2000 en Bolivie, il y avait la lutte contre la privatisation de l'eau, la guerre de l'eau, elle symbolise aujourd'hui la résistance au capitalisme. Quels sont aujourd'hui les arguments qui plaident encore, selon vous, en faveur d'une gestion privée de l'eau potable?
Ce qui milite en faveur d'une gestion privée de l'eau potable, c'est que les services publics s'installent en général dans une forme de routine, de rente, et là aussi de gaspillage. C'est-à-dire la seule façon que vous avez d'inciter quelqu'un à être efficace, c'est de lui dire qu'à un moment donné, il va perdre le marché. C'est-à-dire que si vous avez une régie qui est une régie publique, ad vitam aeternam, eh bien elle va s'installer dans le confort. Si vous avez une société qui est une société à qui on dit vous avez un contrat, ce contrat il va être remis en cause au bout de 3 ans, 10 ans. Et si vous ne respectez pas ce contrat, eh bien il aura effectivement des conséquences sous forme de pénalité. Elle va réagir. Je vais prendre un exemple simple. La SNCF. Que l'on nous décrit comme un service public.
Alors les transports, vous évoquez la question des transports, on peut avancer dans les...
Oui, la SNCF qu'on nous décrit comme un service public, ce service public, effectivement, dès qu'il est en retard, eh bien, il vous donne un certain nombre d'avantages et tout ça. Il s'est mis d'ailleurs, pour des raisons d'introduction de la concurrence de la route par l'intermédiaire des cars Macron et des choses comme ça, à être plus attentif à ce que veut le consommateur. Mais cette même SNCF, lorsqu'elle gère les transports en commun du Massachusetts, elle est devenue un des opérateurs les plus ponctuels de la planète. Parce qu'en face d'elle, vous avez une décision, vous avez une autorité publique qui ne cherche pas à gérer les transports du Massachusetts, mais qui dit aux gestionnaires, si vous ne gérez pas conformément aux intérêts du consommateur, vous aurez telle ou telle pénalité, et à la fin, vous perdrez le marché.
Après,
et donc,
je pense
que le marché est le bon moyen, à condition de mettre les gens en concurrence. C'est-à-dire sur l'eau, sur un certain nombre de monopoles qui sont des monopoles naturels.
On pourrait faire une émission entière sur l'échec de la privatisation du fret, par exemple, puisque vous évoquez les transports et la privatisation et la libéralisation des transports. Mais peut-être que les transports en commun sont peut-être pas le meilleur exemple dans la mesure où il paraît évident qu'on va pas opposer un gaspillage ou une surconsommation de transports en commun comme on peut vous reprocher avec la gratuité d'entraîner un gaspillage de l'eau ou de l'énergie.
Ben, ce que l'on voit déjà, c'est que le marché ne conduit pas à davantage de responsabilités. Prenons l'exemple de l'alimentation. Que je sache, l'agriculture et l'alimentation mondiale est marchande. Or pourtant, 36% de ce qui est produit est gaspillé, et ceci à tous les stades, et plus de 40% dans les pays riches. Alors c'est vrai que la question de la gratuité des transports en commun est une question absolument essentielle, aujourd'hui à la fois parce que tout simplement on remet en cause le droit à la mobilité des plus pauvres, mais également parce qu'on a une situation écologique, planétaire, catastrophique. Or aujourd'hui en France on a une trentaine de villes qui pratiquent cette gratuité des transports en commun. Alors déjà, ce qu'on constate, c'est qu'elle est beaucoup plus rentable que le système marchand. Elle est plus rentable parce que si on intègre effectivement le coût de la pollution, 102 milliards par an pour la France, si on intègre le coût des embouteillages, c'est 1000 euros par personne et par an. C'est-à-dire bien au-delà de ce que représenteraient à peu près les 700-750 euros pour la gratuité des transports en commun urbains et périurbains.
Est-ce que ça, ce sont des coûts, Jean-Marc Daniel, qui sont pris en compte par les collectivités ou par l'État quand il s'agit de faire un choix d'aménagement du territoire, de dire, bah, si on rend gratuit les transports en commun dans une ville, on va diminuer les embouteillages, la pollution, et ça, ça a un coût qui n'est pas, qui ne fait pas partie du même tableau Excel, on va dire. Mais...
Si. Alors, deux remarques. La première sur l'alimentation, je rappelle quand même que le secteur agricole est un des secteurs qui est le moins marchand de la planète. C'est-à-dire que il y a une politique agricole commune en Europe. Si le Japon a appliqué les règles du marché, n'aurait plus aucune agriculture. La Suisse est un des pays qui est réputé comme étant très libéral et dont l'agriculture compte parmi les plus subventionnées.
Mais est-ce que le capitalisme ou l'économie capitalisée peut produire une alimentation faite sur place, relocalisée, qui suive les saisons, moins gourmande en eau, comme on peut l'imaginer dans des...
Mais bien sûr, parce que les expériences des agriculteurs collectivisées ont été quand même dramatiques et catastrophiques. C'est-à-dire l'agriculture collectivisée de l'Union soviétique qui avait fait d'un pays qui était exportateur de blé, un pays qui était obligé d'importer du blé dans les années 70 des États-Unis et qui maintenant se remet, la Russie et l'Ukraine, à exporter du blé. Donc vous avez quand même une incapacité par la collectivisation à assurer le besoin premier qui est la nourriture de la population. Concernant les transports, je dirais qu'il y a deux choses sur les transports. D'abord, les exemples sont faits sur des villes moyennes. Les grandes villes, en général, elles essaient de cibler les périodes de gratuité. C'est-à-dire que ça sert à rien de rendre le métro gratuit à Paris à 18h, il est déjà bondé. Et donc, la RATP perdrait de l'argent sans avoir à réduire le volume des gens qui sont dans les automobiles.
Et d'ailleurs, toutes les réflexions qui ont été engagées ont toujours été abandonnées à Paris.
À chaque fois, et donc là encore, il y a eu des études récentes faites par la région Île-de-France montrant bien qu'à certaines heures, ça sert à rien. Donc, en revanche, c'est pas la gratuité en tant que telle, c'est une modulation du tarif en fonction de la réalité des besoins et de la réalité du fonctionnement des déplacements que l'on constate dans les régions en question. La deuxième chose, c'est que, encore une fois, c'est pas gratuit, il y a quelqu'un qui paie. Et la vraie question derrière tout ça, c'est c'est pareil pour l'éducation, c'est pareil. Est-ce que ces mécanismes qui assurent à une certaine partie de la population la gratuité réalisent des transferts d'une autre partie de la population? Et donc, la question qui se pose sur le plan politique, c'est est-ce que ce transfert est légitime et est-ce que c'est véritablement le transfert qui est le plus efficace dans la redistribution et dans la justice sociale?
Mais ce que dit Paul Ariès, c'est qu'on va faire des économies sur les maladies liées à la pollution, sur les retards au travail liés aux embouteillages, etc. Et que cet argent-là, même si c'est pas de l'argent de recette qu'on a comme on fait en échange d'un ticket de bus, mais en tout cas que cet argent-là servira à financer la gratuité des transports.
Oui, mais il y a deux choses quand même dans cette affaire. Il y a première chose, je vous renvoie à l'interview qu'avait donné notre président de la République à Jean-Pierre Pernaut il était dans une commune du sud de l'Orne, je crois. Et il y avait un commerçant qui disait, mais moi je suis à côté, je leur apporte tout un tas de services et mon commerce va fermer. Et alors le président de la République lui demande pourquoi. Il disait parce que tout le monde veut aller au Super U à Alençon. Vous ne pouvez pas empêcher les gens, s'ils ont envie, d'aller faire leurs courses au Super U à Alençon. Donc il y a un degré qui est un degré aussi qui correspond à la liberté des gens et à leur aptitude de consommation. Alors après, donc dans son livre, d'ailleurs Philippe Ariès le dit, c'est de la gratuité, c'est pas uniquement... C'est pas uniquement demain on rase gratis, c'est aussi une culture de l'assaise. Et donc cette culture de l'assaise, ça demande un effort, à mon avis, sur le plan intellectuel et de l'éducation, dont je pense qu'il est inaccessible. Je pense que cette assaise qui serait à l'origine d'un monde de la gratuité est inaccessible compte tenu de ce qu'est l'esprit humain.
Mais une assaise joyeuse, dites-vous, Paul Ariès. En tout cas, vous réfutez à plusieurs reprises dans le livre, c'est assez étonnant parce qu'on vous présente souvent comme un des chefs de file des décroissants, mais vous dites non, surtout pas, vous réfutez cette responsabilité-là.
Je dirais que la décroissance, ça peut être la meilleure ou la pire des choses. C'est la pire des choses si elle débouche sur l'austérité, si elle débouche sur un appel à se serrer la ceinture un peu beaucoup passionnément ou à la folie. Je dirais, on peut reprocher tout ce que l'on veut à la société d'hyperconsommation, il faut reconnaître qu'elle nous fait jouir. Il y a de la jouissance à consommer, il y a de la jouissance à aller toujours plus vite et toujours plus loin, mais sauf que c'est une jouissance d'avoir, une jouissance d'emprise. Or, la seule solution pour s'opposer effectivement à cette jouissance, c'est de développer un autre type de jouissance, encore plus jouissif, qu'est la jouissance d'être, de mettre la fabrique de l'humain au cœur de la réflexion. Tout à l'heure, j'ai entendu que l'agriculture collectiviste avait produit la famine. Mais bien sûr, c'est vrai. Mais aujourd'hui, notre agriculture capitaliste, c'est 1 milliard d'humains qui est également au bord de la famine. Alors, c'est-à-dire, je crois qu'il y a vraiment nécessité de constater que notre civilisation est mortelle, comme le disait le poète Paul Valéry, et qu'il est nécessaire de penser une autre civilisation.
Paul Arias, si vous voulez bien nous raconter en quelques mots des expériences de cantines scolaires, par exemple, gratuites, qui ont été mises en place dans des villes que vous avez particulièrement suivies, et raconter aussi pourquoi certaines reviennent sur ces choix. Toulouse a laissé tomber la gratuité d'une partie des transports en commun, et je crois aussi des cantines, il y a 3 ans.
Je dirais que la gratuité, c'est un long combat dans l'histoire. Cette première gratuité, ça a été déjà la suppression de l'esclavagisme et la suppression du proxénétisme. La gratuité, c'est aussi d'instaurer tous ces petits bouts de gratuité, tous ces îlots. Vous parlez de la gratuité dans la restauration scolaire. Moi, j'ai envie de prendre un exemple qui est celui d'un pays, la Suède. En Suède, ça fait 13 ans que les enfants ont droit à la restauration scolaire gratuite. Et pas d'abord pour des raisons, je dirais, diététiques, mais tout simplement pour permettre effectivement de réussir la transition écologique. Mais il ne s'agit pas de revenir en régime municipal pour tout simplement rendre gratuit la malbouffe. Il faut aller vers cette alimentation relocalisée, resaisonnalisée, moins gourmande en eau, moins carnée, faite sur place et servie à table. C'est-à-dire à chaque fois, la gratuité est mise au service d'une politique.
Jean-Marc Daniel, est-ce que les économistes prennent en compte tous ces effets à moyen et long terme ?
Oui, ils prennent en compte tous ces effets. Et effectivement, ça s'appelle les externalités. Et le problème des externalités, c'est de savoir justement comment les combattre par l'émission d'un prix, par le fait qu'on va faire un signal prix qui va modifier le comportement des gens. Si vous faites de la gratuité, vous orientez le comportement des gens vers un certain nombre d'objets. C'est-à-dire, vous dites, vous devez consommer ça en priorité puisque c'est gratuit. On va vous inciter à consommer ça plus tôt. En revanche, et là aussi dans le livre, il y a un passage sur le revenu universel. L'idée du revenu universel, c'est de donner aux gens, au travers du versement d'une certaine somme, une certaine forme de pouvoir d'achat. Derrière la gratuité, il y a du pouvoir d'achat. Si c'est gratuit, votre pouvoir d'achat est plus grand. Mais derrière le revenu universel, il y a l'idée que ce pouvoir d'achat qu'on vous donne, vous allez l'utiliser comme bon vous semble. Dans la gratuité, il y a le fait que ce pouvoir d'achat, on va vous dire, c'est là que vous devez l'utiliser. Vous devez l'utiliser pour manger tel type de bien. Vous devez l'utiliser pour envoyer vos enfants à la cantine scolaire. Or, si vous ne voulez pas que vos enfants mangent à la cantine scolaire, et il y a des gens qui ne veulent pas pour des raisons qui sont à la fois des raisons religieuses, des raisons de type de consommation, des raisons aussi de doute sur la capacité de cette cantine scolaire à produire des éléments de qualité.
Eh bien, ils ne les mettront pas à la cantine. Et
oui,
puis
mais
c'est
à
tout.
Ce moment-là, ils seront punis par rapport au fait qu'il y a des gens qui auront bénéficié, eux, de la gratuité. Et eux, on voudra effectivement les inciter à aller vers là alors qu'ils ne veulent pas y aller.
Paul Arias.
Je crois que ce qui nous différencie surtout, c'est que moi, j'intègre la situation écologique et environnementale. Je dirais, quand on sait qu'aujourd'hui, le jour de dépassement des capacités de régénération de la planète au niveau mondial est le 1er août. C'est-à-dire tout ce que l'on produit et ce qu'on consomme après le 1er août l'est au détriment des générations futures. Mais ce 1er août, c'est une moyenne mondiale. Et comme toute moyenne, ça cache plus que ça ne révèle. Aux États-Unis, c'est mi-mars. En France, c'est début mai. Donc je crois qu'il est indispensable de changer nos modes de vie, de changer nos styles de vie, et qu'on ne peut pas en rester à une sorte d'économie hors sol, c'est-à-dire une économie qui effectivement ne tient pas compte des capacités limitées de la planète et ne tient pas compte qu'aujourd'hui notre système laisse de côté de plus en plus d'humains.
France Culture, du grain à moudre, Julie Gacon.
La gratuité, une révolution pour trois fois rien. Nous sommes toujours avec nos deux invités, Jean-Marc Daniel, ainsi que le politologue Paul Arias, pour son livre « Gratuité versus capitalisme » dont nous débattons jusqu'à 19h. Alors, les expériences de gratuité, nous en avons parlé. Vous avez commencé à débattre sur l'opportunité de rendre certains secteurs de l'économie gratuits. Il y en a beaucoup d'autres, Paul Arias, dans votre livre. On ne peut pas tous les développer, mais les services funéraires, la gratuité de la sécurité, des services juridiques, des données publiques, la culture aussi, les musées, Internet, etc. Quelle est aujourd'hui la bonne échelle ? Parce que finalement, ce qu'on a envie de vous dire, c'est que ce que vous décrivez, ça existe déjà, c'est le service public, Paul Arias.
Mais bien sûr, mais il s'agit de repenser les services publics. La gauche est née fin 19e siècle, début 20e, en créant les services publics municipaux. Les premières crèches, les premières bibliothèques, les premières piscines. Sauf qu'on sait que ce modèle aujourd'hui est épuisé. D'où la nécessité de réinventer ce qu'on pourrait appeler un écosocialisme municipal adapté au XXIe siècle. Et pour moi, le grand enjeu, c'est de multiplier ces îlots de gratuité pour passer demain à des archipels de gratuité et après-demain à des continents de gratuité.
Jean-Marc Daniel, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce qui existe, notamment pour les transports en commun, les délégations ou les concessions de services publics, on délègue à des entreprises privées le soin de répondre à un service public, est-ce que ça peut être rendre efficacement, ou je ne sais pas si le terme d'efficacité est judicieux en parlant de gratuité, mais rendre un service public tel que on l'entend et on l'a toujours entendu depuis
la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais bien sûr, parce que justement, quand vous mettez les gens en concurrence, ils sont obligés d'être plus efficaces. Une des raisons pour lesquelles, effectivement, ce qui était né à la fin du 19e siècle, au travers d'abord d'expériences municipales, et puis qui a été étendu au niveau de pays, au niveau de monopoles publics, c'est a débouché sur une grande gabegie. C'est-à-dire, les pays d'Europe de l'Est ont été un échec complet, et on voit bien que, même dans les pays d'Europe de l'Ouest, la Grande-Bretagne travailliste, qui avait nationalisé un certain nombre d'opérateurs, et qui respectait les libertés, à la différence des pays d'Europe de l'Est, a fini par sombrer. Et donc, je crois qu'un des outils, qui est un des outils qui est le plus important dans l'enseignement de l'économie, c'est la concurrence, parce que ça oblige les gens à se dépasser au niveau individuel comme au niveau entrepreneurial. Et donc, une fois que cet outil est utilisé, il faut le mettre à disposition effectivement d'objectifs qui sont des objectifs plus politiques. Concernant l'écologie, je pense effectivement qu'il faut préserver la planète et que la croissance a eu un impact quand même positif. C'est-à-dire que quand Malthus annonçait déjà la catastrophe, il y avait 800 millions d'habitants sur la planète, nous sommes presque 7 milliards et nous vivons mieux qu'à l'époque de Malthus. Donc le capitalisme a quand même été capable de générer du progrès dont ont bénéficié les pauvres. Mais indépendamment de ça, je pense que justement, s'il doit y avoir une culture de la gratuité, il doit y avoir une culture du prix du carbone, une culture du prix de la pollution, une culture du prix de l'avenir. Et on voit bien avec ce qui s'est passé en France au mois de décembre que cette idée est une idée qui a encore besoin de beaucoup de pédagogie pour être partagée par une partie importante de la population. Et donc je pense que plutôt que de s'orienter vers une gratuité systématique et qui finit toujours par être payée par quelqu'un, il faut s'orienter vers des fiscalités écologique et vers des réflexions sur comment rendre un certain nombre de systèmes plus efficaces grâce à la mise en concurrence permanente de ceux qui les gèrent.
Et la mise en concurrence des marchés et de l'État, Paul Ariès ?
Première chose, je crois qu'on sera d'accord également pour dire que le libéralisme n'accouche pas de la justice sociale.
Pas spontanément, mais voilà, après
vous, il a parti. Vous avez tendance à ajouter qu'il accouche plutôt des talents. Qui permet de développer des talents.
Absolument.
Je dirais, allez visiter le milliard de populations sous-alimentées, allez visiter le milliard de gens qui vivent aujourd'hui dans les bidonvilles, et l'OMS nous dit qu'on en aura sans doute 2 milliards et demi d'ici 50 ans, vous verrez que peut-être que le libéralisme développe les talents chez les 1%, mais pas chez les 99%. D'où la nécessité de changer de système, de changer de paradigme.
Paul Ariès, si justement la société marchande enfante, comme vous l'écrivez, les individus dont elle a besoin, comme elle fabrique les biens conformes à sa propre logique, c'est ce que vous écrivez dans votre livre, comment seraient les personnes et les biens engendrés par la société de la gratuité ? Est-ce que la société de la gratuité peut créer des talents ? Quel genre de personne ça peut créer, ou de biens ou de services?
Alors déjà, je crois qu'il faut partir de ce qu'est la société de consommation. La société de consommation n'est pas, comme voudraient nous faire croire les économistes, une société qui viendrait combler un manque, un vide. Il n'y avait pas rien avant la société de consommation. Il y avait d'autres styles de vie, d'autres modes de vie. La société de consommation, ça a été tout simplement la manipulation des envies, des névroses. Et il va falloir construire, je dis bien construire, culturellement également, cette société de la gratuité.
Pour la gratuité des cantines, par exemple, vous proposez de taxer les publicités qui incitent à manger des produits gras et sucrés, à taxer les produits gras et sucrés, en tout cas à taxer ceux qui incitent à la consommation.
Mais quel que soit le domaine, on se rend compte que l'enjeu, la difficulté, elle n'est pas financière. Concernant les transports en commun gratuits, urbains y compris à Paris, le tout dernier rapport nous dit que la difficulté, elle n'est pas sur le plan comptable. La difficulté, elle risque d'être tout simplement dans le dépassement des capacités du réseau. Mais nous n'avons jamais dit l'inverse. D'où la nécessité, effectivement, d'investissement. Et la solution qui est proposée comme alternative à la gratuité, eh bien, c'est le tout voiture avec, petit gadget, la voiture électrique ou la voiture automatique. Je suis convaincu que le principal obstacle aujourd'hui, il est de nature politique, ou on pourrait dire anthropologique. C'est-à-dire, quelle est la conception de l'humain qui est la nôtre ?
Non, mais sur les transports, il faut être clair. C'est-à-dire que dans les transports, il y a trois types de gens qui paient. Il y a l'usager qui paie, donc on peut le supprimer en disant c'est la gratuité. À partir de ce moment-là, c'est le contribuable. Et dans les contribuables, il y en a deux types. Il y a
les entreprises aussi.
Ben, c'est des contribuables, oui. Les entreprises. Hein. Et puis les entreprises, il faut pas se faire d'illusions. Une fois qu'on rajoute un coût, soit elles suppriment des emplois, soit elles augmentent leur prix. Donc,
L'usager des transports en commun est le seul qui paye aujourd'hui en tant qu'usager. C'est-à-dire, en tant qu'automobiliste, vous ne payez pas en tant qu'usager la conception, la construction des routes. En tant que piéton non plus.
Sauf les autoroutes. Ni en tant que cycliste.
Vous le payez à travers vos impôts.
À travers vos impôts. Bon,
on demande la même chose pour la gratuité des transports en commun.
Sauf que l'automobiliste a des impôts spécifiques. C'est-à-dire, il paye notamment ces impôts sur le carburant qui ont été à l'honneur à la fin de cette année. Mais le contribuable, on le voit bien, le contribuable à l'heure actuelle en France, on lui a demandé tellement qu'on a reporté sur les transports, sur la SNCF et sur la RATP en particulier, sur le contribuable de demain. C'est-à-dire qu'on va laisser effectivement une dette écologique, mais on va aussi laisser une dette financière au contribuable de demain. Et donc, la gratuité, ça consiste à dire que l'usager d'aujourd'hui, il vit au crochet de contribuables de demain, au travers de cette dette qui a été accumulée sur la SNCF et la RATP. Et donc, la question qui se pose, c'est quel est ce droit que l'on prend sur la génération future au nom de la gratuité? Et la deuxième remarque que je ferais, c'est que on a peut-être vécu dans des mondes qui étaient des mondes différents. Est-ce que ces mondes étaient meilleurs? Je pense que les gens, du moins à lire la littérature telle qu'elle s'exprimait dans les années du XVIIe ou du XVIIIe siècle, les gens quand même avaient l'impression de vivre de façon moins confortable, moins agréable et moins sereine que dans la société de consommation du XXIe siècle.
Mais vous avez bien entendu quand même ce qu'a dit Paul Ariès, Jean-Marc Daniel. Il n'a pas dit on rend tout gratuit, on rend l'eau gratuite, on rend l'énergie gratuite. Il a dit au-delà d'un certain seuil considéré comme vital ou un peu plus que ça.
Je dis deux choses. Derrière ce discours sur la gratuité, il y a une illusion, il y a quelqu'un qui paie. Et donc la question sur le plan politique, c'est d'identifier qui paie et qui reçoit. Et est-ce que la gratuité est le bon moyen d'assurer un transfert? Est-ce que le transfert ainsi opéré est le bon mode de transfert qu'il faut réaliser? Et la deuxième chose, c'est qu'encore une fois, quand vous créez des mécanismes qui sont des mécanismes de progressivité, eh bien assez spontanément, car l'homme est assez naturellement marchand, l'homme en tout cas tel qu'il est dans la société actuelle, il va contourner la façon de lui imposer les prix. Là aussi, pour revenir à ce qui se passait en Europe de l'Est, il y avait des prix qui étaient imposés, des choses qui étaient très bon marché, et vous aviez à côté un marché noir colossal qui rétablissait la réalité du prix qui correspondait à ce que véritablement la population voulait vivre.
Comme dans une nouvelle de Marcel Aimé, Paul Ariès, c'est vrai que c'est humain finalement de réagir comme ça, et que est-ce que vous réfutez aussi le terme d'utopie en parlant de gratuité?
Alors déjà sur l'aspect, je dirais, utopique, lorsqu'on parle effectivement d'esprit de coopération, je crois que c'est un esprit qui existe autant que l'esprit de concurrence. La question c'est de savoir ce que notre société va développer. Ce qui est illusoire aujourd'hui, c'est de croire qu'on peut continuer avec cette société, puisque tout le monde sait que l'on va effectivement dans le mur. D'où la nécessité de changer. Vous parlez que la gratuité va accumuler les dettes. Mais ce qui a accumulé les dettes jusqu'à présent, notamment écologiques, et financière, c'est bien le capitalisme, c'est bien ce système de marchandisation. Et les objections aujourd'hui qu'on entend concernant la gratuité des transports, de l'eau vitale, des services funéraires et autres, ce sont exactement les mêmes objections qu'on entendait au 19e siècle lorsqu'on parlait de la gratuité de l'école publique. Je dirais, vous êtes partisan du libéralisme, mais seriez-vous pour aujourd'hui remettre en cause l'égalité devant l'école, c'est-à-dire remettre en cause la gratuité de l'école publique?
Je ne suis pas pour remettre en cause la gratuité de l'école publique élémentaire telle qu'elle avait été conçue par Jules Ferry. En revanche, je pense que l'organisation de la gratuité, justement à l'heure actuelle de l'enseignement, notamment de l'enseignement supérieur, fait ce qu'on appelle des Robin Hood Reverse en langage des économistes anglo-saxons, c'est-à-dire Robin des Bois à l'envers. C'est-à-dire les gens qui bénéficient de la gratuité de l'enseignement supérieur appartiennent aux classes qui sont les classes les plus privilégiées et les plus aisées. Et donc il y a un transfert par l'intermédiaire des impôts des plus pauvres vers le financement des études des enfants issus des milieux les plus aisés. Et donc, derrière cette intention qui était une intention noble, la gratuité de l'accès au savoir, vous avez un transfert de pouvoir d'achat qui est fait des plus pauvres vers les plus riches.
Vous voulez nourrir gratuitement un monstre alors, Paul Ariès?
De gratuité de l'enseignement élémentaire, vous citez d'ailleurs dans le texte Ferry, et il faut bien voir ce que cela veut dire. Ça veut dire qu'il faudrait remettre en cause la gratuité du collège 6e, 5e, 4e, 3e. Et je dirais qu'il y a deux type finalement de gratuité. Il y a une gratuité d'accompagnement du système, la gratuité pour les naufragés, pour ceux qui sont tombés. Mais cette gratuité-là, celle des tarifs sociaux, elle va jamais déjà sans condescendance. Est-ce que vous êtes un pauvre méritant ? Et elle va jamais non plus sans flicage. Est-ce que vous êtes un vrai demandeur d'emploi ou un salaud de feignant ? Et puis il y a une deuxième gratuité, une gratuité d'émancipation. Ce qui est beau avec l'école publique, c'est que précisément on ne demande pas à l'enfant s'il est gosse de riche ou gosse de pauvre. C'est en tant qu'enfant qu'il est admis. Et pourquoi ce qui reste vrai pour l'éducation, ne devrait-il ne pas l'être pour les autres piliers qui nous permettent d'exister, l'alimentation, la santé, le logement et les participations à la vie démocratique?
Non, mais ce que je constate, c'est qu'effectivement, derrière ce beau principe, à la fin des fins, celui qui va bénéficier de la gratuité de l'éducation, et notamment de l'enseignement supérieur, c'est celui qui arrive d'un milieu aisé. Et donc, je dénonce au travers
de cette
exemple.
Mais c'est déjà le cas aujourd'hui, puisqu'on sait que les enfants...
On va conclure sur cette considération.
Et donc, cette idée-là, c'est que ce que je crains avec la gratuité, c'est encore une fois qu'on organise des transferts occultes qui vont contre l'idée initiale de ce qu'avait été le principe que vous défendez.
Paul Ariès, comment vous voulez vous organiser avec les entreprises privées? Quand vous parlez de chauffage, par exemple, vous envisagez la gratuité de la même façon que pour l'eau? On fixe une tranche basse de consommation qu'on ne fait pas payer et on augmente beaucoup le prix des tranches au-dessus. Comment vous pensez négocier ça avec les entreprises privées qui aujourd'hui, type Engie, qui aujourd'hui gèrent le chauffage? Et comment ça se passe concrètement sur le terrain dans les communes qui veulent monter leur propre régie?
Lorsque, par exemple, la ville d'Aubagne à instaurer la gratuité des transports en commun, je dirais que c'était sous-traité à une entreprise qui est Veolia. Eh bien, on a payé à Veolia ce qu'on devait et on a instauré cette gratuité. Et le bilan de cette gratuité des transports en commun, c'était presque 3 fois plus de déplacements, donc on a rendu le droit à la ville, et 1/3 d'utilisation de la voiture en moins. Et je crois que nous sommes au début d'une mobilisation prolongée en faveur de la gratuité. On a lancé un appel début septembre qui s'appelle « Vers une civilisation de la gratuité ». Et à ma grande surprise, ce texte a été signé par, je dirais, les chefs de file de toutes les différentes familles des gauches et de l'écologie. Ça montre que c'est autour de cette idée de gratuité que la gauche essaye de repenser un projet émancipateur.
Jean-Marc Daniel, quand vous entendez ces arguments en faveur de la gratuité, est-ce que vous vous dites les malheureux, le capitalisme existe depuis tellement longtemps qu'on ne peut pas le déconstruire? Ça vous fatigue?
Je pense que le capitalisme dont on annonce régulièrement à la fois la mort, la condamnation à la fois historique et éthique, survivra à tous ces fossoyeurs. Donc je pense qu'il correspond à un état d'esprit.
Parce qu'il est plus fort.
Parce qu'il correspond à un état d'esprit moyen de la population.
Est-ce que c'est parce qu'il est plus fort qu'il est le meilleur?
Non, c'est parce qu'il est en adéquation avec ce qu'est l'homme. Et je vais prendre là aussi un exemple sur les transports. Moi, dans ma génération, la gratuité des transports sur la route, ça s'appelait l'autostop. Et donc, les nouvelles technologies ont permis de dépasser l'autostop, de faire de l'autostop quelque chose qui n'est plus anecdotique, mais quelque chose qui est organisé. Ça s'appelle le covoiturage. Sauf que ce covoiturage est passé du statut de l'autostop gratuit à un statut dans lequel il faut rémunérer. On partage le coût. Et donc, il y a une logique de partage, mais dans cette logique de partage, cette logique, elle est rémunérée. Elle a fait fi de la gratuité. Elle a fait disparaître la gratuité. Et ça, ça correspond à l'état d'esprit de la population.
Pour conclure, Paul Ariès, parce qu'il nous reste très peu de temps,
la gratuité n'est pas plus naturelle.
Est-ce que la gratuité crée de la valeur, puisque c'est ce qu'on demande à l'économie aujourd'hui, de créer de la valeur?
Elle crée de la valeur, et pas seulement économique. Rappelez-vous, il y a quelques années, Jacques Séguéla, qui nous disait, si à 50 ans, on n'a pas de Rolex, c'est qu'on a bousillé sa vie. Moi, j'ai bientôt 60 ans, j'ai toujours pas de montre de luxe, mais c'est pas d'abord parce que j'en ai pas les moyens financiers, c'est parce que j'en ai pas le désir. Sauf que les puissants n'arrivent même pas à imaginer qu'on puisse avoir d'autres désirs qu'eux. Or, les 99%, les gens ordinaires, ne sont pas des riches auxquels ne manquerait que l'argent. Ils sont infiniment autre chose.
Pour conclure, j'ai pas de Rolex non plus et je vis très bien sans Rolex, avec une montre qui est une montre à 25 euros.
Il faut presque en demander une autre à Noël. J'espère que vous l'avez demandé.
J'attends ce que m'apportera le Père Noël.
Non, encore un dernier mot pour vous demander, Paul Ariès, si le travail devrait être gratuit, à suivre votre raisonnement. Ça existe déjà, les heures supplémentaires qui ne sont pas payées, les stages qui ne sont pas rémunérés. Jusqu'où on met des limites à la gratuité?
Mais le capitalisme aime beaucoup la gratuité. Mais la gratuité qui lui profite. Pensez que, par exemple, concernant le travail des femmes, eh bien, globalement, elles travaillent 2 mois par an sans être payées, sans même parler de ce que Marx appelait l'extorsion de la plus-value. Donc la question, c'est de savoir au profit de qui tourne la société.
Jean-Marc Daniel.
Oui, dans le capitalisme, il y a un rapport de force, c'est clair, entre le producteur, entre le consommateur, le producteur, et qui existe aussi sur le marché du travail. Les entreprises cherchent peut-être à faire en sorte que les ouvriers soient les moins payés possibles, mais les ouvriers ont des talents, ont des compétences qui sont à même de faire valoir auprès des capitalistes. Ce qui protège le plus les salariés, c'est leurs compétences et leurs talents. Et ça, c'est dans le système et dans le cadre d'un système concurrentiel capitaliste.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus en discuter ce soir. Jean-Marc Daniel et Paul Ariès, dont je rappelle les références de votre livre, mais on les met sur le site de France Culture. Nous les mettons en ligne. Gratuité versus capitalisme. Des propositions concrètes pour une nouvelle économie du bonheur. Et ça a paru chez Larousse. Merci beaucoup à vous deux. Très joyeuses fêtes. Merci à l'équipe du Grain à Moudre. Antoine Tricot, Antoine Dulster, Fanny Richer, Virginie Leduo, Guillaume Laguigné. Une émission réalisée par Émilie Valla. Avec à la prise de son ce soir Amine El-Mansari. Très belle fête à tous, à demain, dans un instant, la dispute.